France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Le bonheur est-il dans le désir ? C'est notre question cette semaine et aujourd'hui nous y réfléchissons avec Spinoza. Étrange, cette expression qui a donné son titre à un film d'Étienne Chatillier, Le bonheur est dans le pré. À moins que ce soit le film qui ait créé l'expression, je ne sais pas. En tout cas, la formule, le bonheur est dans ceci ou dans cela, est assez suggestive. Elle fait réfléchir. Le bonheur est souvent considéré comme la visée ultime du désir, ou plutôt de tous nos désirs. On serait heureux s'ils étaient tous satisfaits. Et si on prenait le problème autrement ? Le désir, sa tension même qui fait se sentir vivant, eh bien certains disent que cela leur a donné les plus beaux moments de leur vie. Et si le bonheur était en réalité dans le désir lui-même ? Mais beaucoup de philosophes n'en sont pas convaincus, comme nous l'avons vu dans nos premiers épisodes. Freud souligne que la séduction au moment de développement du désir, souvent célébrée comme délicieux, charrie aussi des choses angoissantes. Platon pense le désir comme un manque, ce qui n'aide pas à en faire un visage du bonheur. Peut-être la modération des désirs prônée par Aristote évoque-t-elle davantage un vécu agréable ? Peut-être. Mais continuons l'enquête. Prenons Spinoza. Que nous dit-il des désirs, des joies qu'ils procurent, des illusions parfois de ces joies quand au bout du compte elles rendent malheureux, ou encore du bonheur suprême que pour sa part il appelle béatitude. Ce matin, je pose ces questions à deux très bons connaisseurs de Spinoza. Bonjour Bernard Potrat.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes une figure historique de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, tant vous y avez enseigné au fil des années avec une énergie inépuisable l'œuvre de Spinoza et singulièrement l'éthique. Votre séminaire a été suivi par plusieurs générations d'étudiants. Vous avez dirigé la nouvelle édition des œuvres complètes de Spinoza en Pléiade, chez Gallimard, et écrit un ouvrage aujourd'hui réédité aux éditions Rivage, L'amour et Spinoza, Ethica Sexualis. Et bonjour Céline Hervé.
Bonjour.
Vous aussi êtes une spécialiste de Spinoza, vous enseignez à l'université de Picardie Jules Verne. Votre thèse de doctorat est devenue un livre intitulé « De l'imagination à l'entendement, la puissance du langage chez Spinoza ». C'est publié aux éditions Garnier. Commençons, si vous le voulez bien, par les premières pages d'un ouvrage de Spinoza, son premier essai, écrit en 1661, même s'il ne paraîtra que de manière posthume. Spinoza a 29 ans. Cet essai a longtemps été traduit sous le titre « Traité de la réforme de l'entendement ». Aujourd'hui, n'est-ce pas Bernard Potrat, dans votre nouvelle traduction en Pléiade, on dit plutôt « Traité de l'amendement de l'intellect ». Spinoza évoque des déceptions dans son expérience, l'inanité, voire le danger des richesses et des honneurs. Il laisse entendre aussi que l'amour, le sexe en particulier, ne lui ont pas apporté de vrai bonheur. D'où ces lignes.
Après que l'expérience m'eut enseigné que tout ce qui se présente fréquemment dans la vie ordinaire est vain et futile, voyant que tout ce qui me faisait peur et tout ce pourquoi j'avais peur n'avait en soi rien de bon ni de mauvais, sinon en tant que l'âme en était agitée, je résolus enfin de rechercher s'il y aurait quelque chose qui fût un vrai bien et qui pût se partager et qui, une fois rejeté tout le reste, affecta l'âme tout seul. Bien plus, s'il y aurait quelque chose qui fût tel que, une fois cela découvert et acquis, je jouisse d'une joie continuelle et suprême pour l'éternité. Je dis « je résolus enfin », car à première vue, il semblait inconsidéré de vouloir laisser échapper une chose certaine pour une alors incertaine. Je voyais, bien sûr, les avantages que procurent honneur et richesse, et que j'étais contraint de m'abstenir de les rechercher si je voulais m'appliquer sérieusement à une autre chose nouvelle. Et si d'aventure la suprême félicité résidait en eux, je percevais que j'en serais forcément privé. Mais si elle ne résidait pas en eux, et si je m'appliquais seulement à eux, alors aussi je serais privé de la suprême félicité.
Nicolas Berger, de notre équipe, prêtait sa voix à Spinoza dans ce texte écrit vers 1661. Bernard Potrat, Spinoza nous dit que certains désirs nous détournent, je cite, de la suprême félicité. Sont-ils faux illusoire, décevant après coup. Qu'est-ce que c'est ça, ce désir qui n'apporte pas ce qu'il promet ?
Dans ce texte, il dit qu'il a expérimenté tout ça. Et tout ça, c'est une tripartition classique. Ce sont les richesses, l'argent donc, le fric, l'ambition, c'est-à-dire les honneurs, et puis les plaisirs sensuels, disons. C'est très difficile de traduire ça. A-t-il expérimenté tout ça ? Dans votre introduction, vous évoquiez la sexualité. On ne sait rien de la vie sexuelle de Spinoza. A-t-il expérimenté ? Probablement. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont, en quelque sorte, des voies sans issue. La suite du texte est terrible. Et ça me plaît parce que, en fait, c'est peu conforme à une image qu'on véhicule de Spinoza. En fait, tout ça mène à la catastrophe.
À la catastrophe.
Il aggrave les choses, oui. C'est particulièrement sensible sur la question de la sexualité, de l'amour sensuel, et de l'amour sentimental, en tout cas de l'amour passion. Ça, c'est une maladie pour lui, et ça mène véritablement à la catastrophe. C'est un délire, ça rend idiot d'être amoureux. Donc il ne sauve rien de tout ça. Mmh. Et en réalité, là, j'anticipe, c'est volontaire. Ce qu'il cherche, il va le trouver dans le stade suprême de la satisfaction, n'est-ce pas ? Vraiment le souverain bien. Et donc, ça sera cette béatitude-là, et qui est un objet d'amour qui est le seul qui vaille pour lui. C'est ça qui est terrible, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu, si vous êtes amoureux d'une personne... une personne, en tout cas pour Spinoza, ça ne se partage pas. Tandis que Dieu, plus on est nombreux à l'aimer, plus on est heureux.
Et puis,
c'est un objet d'amour universel.
Il ne meurt pas, il est éternel.
Il est éternel.
Mais
et nous sommes éternels.
Mais qui est-il une personne ? Qui est-il ? Parce qu'il faut quand même, puisque vous commencez directement avec Dieu, là on est obligé de mettre quelques sous-titres. Oui, le Dieu de Spinoza n'a pas grand-chose à voir avec les dieux des religions qu'au passage, il étrille.
Rien. En effet, rien.
C'est quoi le dieu de Spinoza ?
C'est vous, c'est moi, c'est les murs, c'est tout. C'est tout et le reste. Vous pourrez toujours en ajouter, ça sera toujours lui.
C'est la nature, dit-il dans ce premier texte.
Oui, c'est autrement dit la nature, mais quand on dit autrement dit la nature, je me méfie toujours qu'on glisse vers la pente du... panthéisme au sens où on aime la nature, les petits oiseaux et tout ça. Bien sûr, les petits oiseaux sont de Dieu aussi, sont en Dieu. Mais la nature, c'est tout. C'est tout. C'est aussi les sentiments que nous éprouvons. Tout ça, c'est en Dieu. Hein.
C'est rationnel. C'est
rien,
quelque chose
rien n'échappe à ça. Simplement, en effet, comme vous l'avez dit, et ensuite je passe la parole à Céline... ce Dieu-là n'est pas une personne. Il ne jugera personne. C'est pas une personne. Ça change tout. Bon. Alors évidemment, c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de commentateurs disent « Mais alors pourquoi il appelle ça Dieu ?»
Oui, pourquoi ?
C'est son choix. Pourquoi ? Je ne suis pas là pour répondre à sa place. Lui, il explique que ça ne peut être que ça, Dieu.
Et du coup, ça rend l'affront aux religions encore plus grave. Parce que s'il avait carrément changé de principe, bon, c'était quand même un affront aussi, mais le fait qu'il appelle Dieu autre chose que ce que les religions nomment Dieu, c'est l'énervait, c'est un problème et ça va lui valoir des soucis.
Alors oui, parce qu'à bien des égards, Spinoza pense encore dans les mots de la théologie. Hein. On a les termes justement de béatitude, de salut, et ce mot de Dieu en effet, hein, ce syntagme sur lequel s'étrillent les confessions, les diverses confessions qui s'affrontent à son époque. Mais il le recode, hein, il le remplit d'un tout autre sens et je pense que... Peut-être, c'est vraiment une hypothèse, mais pourquoi garder ce mot de Dieu ? Je pense que ça fait signe vers la puissance. Et une puissance qui, dès lors, au fond, n'est plus concentrée sur un être personnel qu'on peut justement...
Ni même un principe transcendant, décalé rapport au monde, qu'il aurait ni un créateur.
Absolument. C'est une puissance productive qui nous traverse, dont on est traversé, toute chose singulière est traversée par cette puissance. Donc peut-être que, au fond, le mot de Dieu avait cette connotation qui permettait justement de le ressaisir dans l'immanence de la nature, enfin, dans la nature au sens de Spinoza, c'est-à-dire l'ensemble infini des choses singulières. Hein.
Et c'est rationnel, le tout ?
Ah oui,
est-ce que ce n'est pas cela qu'il célèbre ?
C'est la ratio, c'est-à-dire que ce tout est redevable d'une explication rationnelle que notre raison à nous peut entrevoir, peut arriver à maîtriser. Oui, tout à fait. Il y a cette pente possible d'une sorte d'union avec la nature qui se penserait comme une union avec Dieu, mais cette union, c'est d'abord une connaissance des lois naturelles qui sont rationnelles, en fait.
Donc c'est ça, l'amour de Dieu, une connaissance des lois rationnelles. On va y revenir. Parce qu'on
mais qui produit un affect, hein, qui n'est pas quelque chose de complètement
Donc on va
désincarné.
Y revenir. On lira un peu après le texte sur la béatitude. Mais là, je voudrais revenir à la question des affects et du désir, justement. Est-ce que les mauvais désirs qui mènent à une catastrophe, a dit Bernard Potra, sont ceux qui sont déconnectés de la rationalité du tout? Ce sont des désirs qui n'ont aucune rationalité, ce qui voudrait dire que pour Spinoza, les désirs bons sont ceux qui sont porteurs de quelque chose de rationnel. Expliquez-moi ce qu'est un mauvais désir pour Spinoza.
Ils ne sont, sont pas des désirs qui ne seraient pas rationnels, parce qu'ils peuvent se comprendre, en fait. C'est-à-dire, y compris nos délires, y compris nos désirs pour des biens illusoires, périssables, que tout le monde chérit, mais qui au fond sont nocifs, ces désirs-là, on peut en donner la raison, hein, la raison d'être. Donc, parler de désirs qui seraient irrationnels, c'est plutôt, au fond, des désirs qui seraient suggérés par des causes extérieures, des désirs qui ne viendraient pas de nous, en tout cas qui ne seraient... Qui nous déposséderait de nous-mêmes. C'est-à-dire des désirs aliénants, en fait, au fond, qui viendraient des autres, finalement.
Des autres.
Enfin, des autres et des causes extérieures, de l'altérité, au sens des choses singulières, extérieures, qui...
Et donc, ce ne serait pas relié, ces mauvais désirs ne seraient pas reliés, Bernard Potra, à cette force du désir que, par ailleurs, il célèbre. Et j'aimerais bien vous nous expliquer ce que c'est. Il appelle cela le conatus. Il y aurait donc une force du désir dans notre être, mais par ailleurs des désirs qui sont déconnectés, qui sont mauvais. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment il peut y avoir des désirs mauvais ou faux ou illusoires chez Spinoza.
Non, c'est facile, écoutez. Désirer une chose dont on ne peut pas être le maître à cause de le nœud des causes, c'est-à-dire en fait... Une chose, elle est prise dans la connexion infinie des causes. Donc, voilà, vous avez beaucoup d'argent, mais vous pouvez le perdre demain, par exemple. Bon, donc c'est proprement illusoire. En même temps, donc le conatus, c'est le désir qui consiste à désirer de persévérer dans son être. Alors, on peut désirer persévérer dans son être en se trompant complètement d'objet de désir. Et on est nécessité à cela. C'est-à-dire, le monsieur ou la dame qui désire l'argent, c'est pas de sa faute, si j'ose dire. Et cette personne est déterminée à désirer ça. Simplement, son désir se trompe, si vous voulez. Le tout, c'est de ne pas se tromper de désir et de ne pas se tromper non plus de joie. Je dis ça parce que on a fini par considérer que Spinoza, c'est le philosophe de la joie. Mais comme il y a joie et joie, ça ne veut rien dire que de dire que c'est le philosophe de la joie tout court. C'est-à-dire, il y a deux types de joie. Il y a les joies qui sont actives et qui sont bonnes. Et il y a des joies qui sont passives et qui sont mauvaises. Donc, bien sûr qu'il y a des désirs mauvais. Et je pense qu'on peut dire qu'un désir mauvais, c'est un désir qui, a priori, est insatisfait. C'est pourquoi la formulation « le bonheur est-il dans le désir » est une expression que soit j'ai du mal à comprendre, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'être dans, soit la réponse est pour moi immédiate. Le malheur est dans le désir. C'est plutôt ça.
Pour Spinoza et donc pour vous, parce que vous êtes
oui,
un grand
c'est-à-dire que justement le but, c'est de produire chez quelqu'un qui lit l'éthique, parce qu'il faut partir de là, hein, qui se forme rationnellement en lisant l'éthique, c'est quelqu'un qui va se trouver amené à avoir les bons désirs, le plus possible de bons désirs. Et il cherche à persévérer dans son être, mais lui ne se trompe pas d'objet. Je rappelle que, pour Spinoza, par bon, j'entends ce qui nous est utile. Et dans cette expression, l'important à mes yeux, c'est nous. C'est pas ce qui m'est utile, c'est ce qui m'est utile à moi, mais est utile à tous. Je donne un exemple. Je le développe très rapidement. Je suis SDF. Je n'ai pas de toit. J'aimerais avoir un toit. Ce n'est pas le cas de tous les SDF, mais quand même, il y en a qui aimeraient avoir un toit. Pourquoi ? Parce qu'ils jugent que l'habitation, c'est bon. C'est-à-dire que son désir, c'est ça. Il n'y arrive pas. Il ne l'aura pas. C'est en ce sens-là que le désir est mauvais, si vous voulez. C'est évident. C'est-à-dire, c'est la déception immédiate. Parce qu'il n'y a de bon qu'un désir satisfait. Vous avez employé le mot de satisfaction, cette expression aussi tout à l'heure. Il n'y a de bon qu'un désir satisfait. Un désir insatisfait, c'est ça que j'appelle le malheur. Quelqu'un passe devant la poissonnerie, il voit un homard. Et ce homard le fait saliver, n'est-ce pas ? Ça lui donne de l'appétit. Il voudrait manger ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est une tristesse. C'est évident.
Donc, on peut s'empêcher de désirer.
Se désirer cause de tristesse. Si on peut s'empêcher de désirer, et bien justement, ça, c'est l'objet d'une éducation rationnelle. Par exemple, rationnellement, on peut imaginer qu'on milite pour le homard pour tous, par exemple. Parce que si c'est bon pour moi, c'est bon pour tous. Et l'habitation, c'est pareil. Si le toit, c'est bon pour moi, et je le désire en tant que tel, parce que ça aide à vivre et à vivre bien, qui sont les expressions mêmes de Spinoza, alors je le veux pour tous. Ce qui fait que, comme vous voyez, il y a des implications politiques, évidemment, à tout ça.
Voilà. Donc, deuxième exemple est très troublant. Ça veut dire que bon, le homard, on comprend bien qu'on puisse envisager de ne pas le désirer, on peut vivre sans, mais un toit. C'est parfaitement rationnel que le SDF désire un toit. Comment pourrait-il ne pas le désirer, sous prétexte qu'il ne l'a pas ? C'est parfaitement normal, vous venez de le dire, que chacun désire un toit. Comment peut-il changer ce désir ?
Eh bien, là, c'est pour ça que je dis militer. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que les êtres rationnels... Je rappelle que pour Spinoza, la majorité de l'humanité est faite de stulti. C'est le stultus, c'est un insensé, c'est un sot, si l'on veut. Donc c'est quelqu'un qui vit dans l'erreur, d'une certaine manière. Bon, l'idée serait, à mes yeux en tout cas, que ceux qui ont compris, c'est-à-dire qui savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ceux-là s'unissent et fassent en sorte que, puisque nous vivons dans un état social, dit état civil, que cela se conjure en quelque sorte pour que l'organisation sociale soit telle que chacun ait un toit. Bon, alors, vous me direz, c'est difficile tout ça, mais Spinoza n'en doute pas une seconde. Effectivement, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il a pris la peine quand même de faire des plans de constitution, jusque dans le détail, qui est un travail de dingue, en imaginant ce qui serait une bonne constitution pour que les désirs, les bons désirs, soient assurés. Soit assuré donc pour tous, puisque c'est bon. Vous comprenez ?
Oui, j'essaye. En tout cas, je vais demander à Céline Hervé, peut-être avec ses mots à elle, de m'expliquer ce point que je trouve difficile. Vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, Bernard Potra, y a des gens, ils sont déterminés, à aimer le homard, à tomber amoureux d'une femme qui ne va pas les rendre heureux, ou d'un homme qui ne va pas les rendre heureux ou heureuse. Si on emploie ce mot déterminé, on ne voit pas très bien comment on pourrait arrêter ça. C'est-à-dire, quelle est cette force intérieure qui permet de changer son désir, soit, comme vous venez de le dire, de comprendre qu'on ne peut le satisfaire que par des réformes collectives et de militer dans ce sens, soit de l'abandonner quand on comprend qu'il est sot. D'où vient cette force intérieure? Quelle est-elle chez Spinoza, Céline Hervé, qui lui permet de dire « je résolus de changer mes désirs ». On a fait une semaine, nous, sur la notion de résolution. On aurait pu parler de Spinoza. D'où lui vient cette force?
Alors, déjà, ce qu'on appelle communément un prologue ou un préambule du traité de la réforme du entendement, qui est ce récit d'un itinéraire vers le bonheur, d'un passage de la recherche de biens périssables, illusoires, à la recherche du vrai bien. Cet itinéraire, c'est déjà la philosophie de Spinoza en acte. Parce que quand il dit « je résolus enfin » et qu'il ponctue tout ce parcours-là, hein, qui ouvre le traité de l'amendement de l'intellect, de considération réflexive, il vous dit, dans le temps où je pensais à cela, hein, dans le moment même où je considérais ces désirs, ces trois types de biens, cette triade infernale, hein, qui est le sexe, l'argent, la gloire, hein, dans le moment où je pesais finalement, hein, la force qu'ils peuvent avoir et au fond, leur vanité, leur futilité, dans ce temps-là de la pensée qui est une compréhension, une réflexion si on veut, eh bien, je sentais que leur pouvoir, d'une certaine manière, se désamorçait petit à petit. Donc déjà, dans le texte, il se passe quelque chose. Et l'éthique, en reformulant et de manière évidemment beaucoup plus complexe, beaucoup plus prolixe aussi, avec cet ordre géométrique extrêmement étonnant, l'éthique, elle va reprendre en fait ce travail textuel qui consiste précisément à produire un affect chez nous qui va avec cette compréhension de nos désirs, la façon dont nous nous attachons au bien, en fait. Donc ça se produit précisément en acte, dans la pensée de ces
désirs.
Dans
la pensée. Oui. La compréhension. Alors peut-être y a-t-il des signaux. Les désirs mauvais nous offrent de la joie, mais si on regarde bien, et si on s'observe bien, et il y a de l'angoisse, il y a des choses mauvaises qui arrivent. Alors comme on essaie d'illustrer ce propos ici comme on peut, voici un extrait du film de Cédric Kahn qui s'appelle « L'ennui », un film de 1998, adapté du roman éponyme d'Alberto Moravia. Cécilia a un nouvel amant. Le précédent, apparemment, il a des relations sexuelles torrides, apportant beaucoup de joie à tout le monde. Mais le précédent amant, Meyers, en était mort. Le suivant a de la joie, mais est inquiet. On l'écoute.
Cécilia, est-ce que je peux te parler?
Pourquoi?
Je suis comme ça, Paul, à moi, j'ai besoin de parler, sinon ça m'angoisse.
Parle alors.
Ce que Meyer se disait, pourquoi il t'aimait?
Non, il m'aimait, c'est tout.
Tu me l'as dit toi-même, pour lui t'étais un vice. Alors pourquoi cette manie?
Je sais pas.
En tout cas, tu ne sembles pas ce genre de femme qui puisse inspirer une passion pareille.
Non, c'est vrai.
Et alors comment tu expliques cette passion que Meyers a eue pour toi?
Je sais vraiment pas, il devait le faire comme ça.
Est-ce que Meyers savait que vos rapports étaient dangereux pour sa santé?
Oui.
Que disait-il?
Il disait, j'y laisserai ma peau et même il rajoutait, c'est sans importance.
Sans importance?
Et même un jour, en faisant l'amour, il m'a dit, continue, je voudrais que tu continues sans tenir compte de moi. Même si je proteste, même si je me sens mal et que tu me fasses mourir, mais véritablement mourir.
Si je comprends, il t'aimait parce que tu le faisais mourir. En fait, il a commis avec toi un suicide. Un suicide réussi, et qui plus est, en pleine lucidité.
Ouais, peut-être que t'as raison.
Bah, tu vois, ça change rien, on a beau savoir les choses, on peut pas se soustraire à son propre destin.
Je vous écoute, les spécialistes du Spinoza. Est-ce que cette scène est très spinozienne? On sent bien qu'il y a du mal dans la joie. Et du coup, elle est un petit peu moralisatrice aussi, il faut bien le reconnaître. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette scène? Vous qui connaissez bien la réflexion de Spinoza sur les désirs mauvais.
Mais c'est un cas, hein, ce type-là. Il a autre chose à faire que de s'inquiéter. Non, mais c'est vrai, je ne comprends pas. Non, c'est un cas particulier. C'est-à-dire, vous prenez un cas de que j'appellerais le cas Félix Faure, qui est mort dans ces conditions. C'est bien connu, président de la République, non?
Oui, oui.
C'est un cas très, 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 très particulier.
C'est la question de l'addiction aussi derrière, qui est un cas moins particulier pour Spinoza. Il y a des joies qu'on a envie de répéter à l'infini dans quelque chose de délirant, d'une ivresse qui finit par nous faire du mal.
Bien sûr. Non, mais d'ailleurs, je dirais que la répétition est inscrite dans le désir satisfait, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas vouloir reproduire une expérience satisfaisante. Donc, parce que persévérer dans son être, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement je persévère dans mon être, c'est-à-dire je continue à vivre. C'est je persévère dans l'état où mon être se trouve à un certain moment. C'est-à-dire, effectivement, il y a une dimension addictive dans le désir, c'est sûr, et ça fait partie de la grande catégorie, chez Spinoza, de l'affect dit adhérent. Et le problème, c'est que nous avons tous beaucoup d'affects adhérents. Ils sont là, ils sont bien accrochés, et on a du mal à décrocher. Quant à la détermination que vous évoquiez, oui. Spinoza, vous dites, comment il est passé à ça ? Il y a été déterminé. Donc là, c'est une affaire de psychologie individuelle. C'est-à-dire, lui, je confirme ce que disait Céline tout à l'heure, à savoir que le point de départ de Descartes, c'est le doute, mais le point de départ de Spinoza, parce que ce sont probablement les premières lignes qu'il a écrites, qui ont été lues tout à l'heure, c'est l'expérience de la déception. C'est un type déçu. Et il ne supporte pas ça. Et ça le détermine à chercher une voie. Il est déterminé. Comme vous savez, tout est déterminé. Donc, et ça, j'y crois.
C'est-à-dire qu'effectivement, si tout est déterminé, on ne peut pas changer les choses. Si on est déterminé, d'où vient la force de changer ?
La force de changer, c'est que... Non, mais je viens de le dire. Lui,
la force. Pardonnez-moi, j'ai mal
non,
compris.
Non, la force de changer les autres, c'est une affaire. Qu'est-ce qui lui donne ça ? Mais
changer soi-même. La déception. La force de se changer soi-même, de sortir d'une addiction, de comprendre qu'un désir qui m'a donné de la joie en fait est mauvais, etc.
C'est la déception le fait réfléchir. Et il réfléchit sous forme d'un calcul dans le texte qui a été lui dit. Voyons, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds ? Eh bien, il se dit que peut-être il va gagner. Il y a ça aussi dans le désir. Peut-être bien qu'il va gagner. Et il va essayer de gagner le plus possible. Parce que l'ambition est absolument folle dans le texte qui a été lu, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il veut une joie. Une joie continuelle et suprême pour l'éternité. Vous vous rendez compte ?
Ah oui, je me rends compte.
On est tout de suite à un niveau. C'est pour ça que j'évoquais tout de suite la béatitude. Vous voyez bien qu'il place l'enjeu très, 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 très haut. Et il faut qu'elle soit continuelle, il faut qu'elle soit partagée, communicable, comme il dit en latin, et suprême, et pour l'éternité. Il cherche ce souverain bien, là. Bon. Eh ben, c'est une... Qu'est-ce qui détermine quelqu'un à chercher une issue ? C'est parce qu'il ne voit pas d'issue. Alors il en cherche une, parce qu'il a envie de sortir. Il a envie de sortir de quoi ? De cet affect qui est la déception, c'est-à-dire une tristesse.
Oui.
C'est un type triste, à mon avis. Et un type qui a acquis pour lui-même les moyens intellectuels, bien entendu, d'accéder à autre chose, et qui ensuite veut l'enseigner à tous. Et, c'est pour répondre à votre question, qu'est-ce qui déterminera les autres à changer ? Puisque c'est un peu ça, votre question.
Et surtout soi-même, c'est une question de soi à soi aussi. Comment on peut changer ? D'où vient cette force ? C'était ça, ma question. Oui. Les autres, elle se pose aussi.
Ça me semble simple.
C'est l'intellect qui peut réorienter
les désirs.
Le désir lui-même. C'est l'énervé.
Oui, on change pas de registre, en fait. On est toujours dans le désir. Hein. Quand Spinoza dit le désir est l'essence de l'homme, même la recherche du vrai bien, de la félicité suprême, la béatitude, quelle que soit la manière dont on l'appelle, on est toujours projeté... comme une chose singulière, désirante. Enfin, c'est simplement, en effet, le calcul nous réoriente ce désir, le fait s'accrocher à un bien, au fond, qui résulte d'un meilleur calcul, hein, d'une meilleure pesée des plaisirs et des peines, d'une certaine manière. Peut-être qu'au fond, le pari, c'est de trouver de s'accrocher à un bien, de désirer un bien qui ne nous décevra pas, qui ne nous dépossédera pas de nous-mêmes et que l'on ne subira pas, qui ne deviendra pas notre maître, qui ne nous aliénera pas d'une certaine manière. Donc c'est toujours le désir, mais là qui au fond fait le calcul de la raison d'une certaine manière au sens de ratio.
C'est le désir éclairé sur sa vérité.
Oui, un désir qui se réfléchit lui-même et qui réfléchit à sa propre nature aussi.
Alors pour compléter l'analyse, puisque d'emblée vous avez évoqué cet enjeu de la joie éternelle qu'il appelle dans l'éthique la béatitude, je propose qu'on lise tout de suite le texte de un extrait de Spinoza sur cette béatitude. C'est dans l'éthique, écoutez.
Il est dans la vie utile au premier chef de parfaire l'intellect, autrement dit la raison, autant que nous pouvons. Et c'est en cela seul que consiste la suprême félicité, autrement dit la béatitude de l'homme. En effet, la béatitude n'est rien d'autre que l'acquiescence d'âme qui naît de la connaissance intuitive de Dieu. Or, parfaire l'intellect n'est également rien d'autre que comprendre Dieu, les attributs de Dieu et les actions qui suivent de la nécessité de sa nature. Et donc, la fin ultime de l'homme que mène la raison, c'est-à-dire son suprême désir, par lequel il s'emploie à maîtriser tous les autres, c'est celui qui le porte à se concevoir adéquatement lui-même, ainsi que toutes les choses qui peuvent tomber sous son intelligence.
Il s'agit d'un extrait de l'appendice de la partie 4 de l'éthique, dans une partie qui s'appelle « De la servitude humaine ». Céline Hervé, souvent, il est vrai, on croit que tout est déterminé chez Spinoza, et c'est bien compris qu'on pouvait le dire dans un certain sens, vous l'avez dit vous-même, tous les deux. Mais en même temps, on peut échapper à la servitude, dont je suppose que tout le vécu pénible, décevant qu'il évoque, est l'illustration. Parfois, on vit dans la servitude de ses désirs. On peut donc s'émanciper, il y a donc une idée de liberté quand même, malgré la détermination par le désir. Et c'est cette liberté intérieure de comprendre, de connaître, c'est l'intellect qui nous donne, Céline Hervé, la capacité à nous mettre sur le chemin de la béatitude.
Oui, absolument. Spinoza dit ailleurs, pas très loin de ce passage-là, hein, qu'il n'y a pas de vraie vie humaine sans intelligence, hein, mais véritablement au sens de la puissance de l'intellect que précisément Spinoza commence à retravailler, à peaufiner justement dans ce traité de l'amendement de l'intellect, qui est une sorte de méthode d'une certaine manière. Et une fois qu'on a poli cet instrument de compréhension, en effet, la conviction de Spinoza, c'est que la compréhension, c'est-à-dire le fait de réassigner ses causes à un phénomène, et y compris donc un désir par exemple, ou n'importe quel affect, le fait de réassigner à une chose, à un phénomène, un désir, la pluralité, la multiplicité de ses causes, hein, de cet ensemble de nœuds causaux, de connexions entre les causes et les effets qui produisent en fait, qui génèrent nos désirs et de manière générale notre affectivité, eh bien cette compréhension, cette puissance de comprendre qui est peaufinée, cet intellect, une fois qu'il est déployé dans sa puissance, hein, il est capable de produire cette joie de comprendre, hein, ce plaisir dit, hein, au début de l'éthique 3. Hein, il dit que, précisément, il y a un plaisir, hein, à comprendre, à contempler même nos affects. Hein, à la fin de cette préface, c'est un grand texte aussi spinoziste. Donc, si vous voulez, la compréhension des causes, elle n'est pas, d'une certaine manière, sans affect, elle n'est pas désaffectée.
Oui, c'est pas un rationalisme froid.
Tout à fait, oui.
Oui.
Donc ça produit des effets en nous. Ça produit des effets en nous.
Même si on peut toujours s'interroger sur ce qu'un savoir sur soi-même seul peut changer vraiment. Bon, évidemment, la psychanalyse aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il est hors de question que je fasse débat de Spinoza avec Freud, sinon on en a pour toute la matinée. Bernard Potrat, Céline Hervé a dit « réassigner ». On dit aussi parfois convertir. Est-ce qu'il faut changer, enfin déplacer, on pourrait dire un peu tous ces mots qui d'ailleurs existent aussi en psychanalyse. Est-ce qu'il faut changer, sublimer, a dit quelqu'un, une de nos invitées lundi, à propos de Platon dans Le Banquet. On convertit ou on sublime le désir corporel en allant vers des objets de désir plus élevés. Est-ce que c'est le même problème pour Spinoza ? Il faut, à partir d'un désir sexuel, d'un désir corporel quelconque, le réassigner, le changer, lui donner d'autres objets, bref, le sublimer, voire le convertir. C'est ça qu'il faut entendre ou on va trop loin ?
Vous allez trop loin. Sublimer, en tout cas, je ne l'accepterai pas. Vous me permettez de revenir un tout petit peu en arrière, toujours pour répondre à votre question, et je vais continuer.
Allez-y.
C'est que, qu'est-ce qui a fait que Spinoza s'est résolu à ? Ça, c'est déterminé. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord se demander comment se fait-il que Spinoza est ce qu'il est, est celui qu'il est. C'est-à-dire, d'où vient le fait que Spinoza est un type qui réfléchit ? C'est pas tout le monde qui réfléchit.
C'est
pas tout
le
monde qui se dit, ça marche pas, mais je voudrais autre chose. C'est-à-dire, il a quand même été élevé d'une certaine façon dans un univers mental particulier où on argumente quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a connu tout ça. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient ce qu'on appelle un intellectuel ? Hein ? Voilà. Et c'est déterminé. Il y a des causes à cela. C'est donc un individu très particulier qui, déçu, se dit « je vais essayer de trouver mieux ». Bon. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas confondre la liberté de l'esprit dont parle Spinoza à un certain moment et comme un non-déterminisme, surtout pas. C'est-à-dire, ce qui n'existe pas, c'est la liberté du vouloir, c'est-à-dire le libre arbitre. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, vous croyez choisir ceci, cela, vous croyez avoir choisi de venir ici où vous êtes, ça s'est choisi chez vous, en vous. Ça s'est choisi. Et si vous réfléchissez, vous verrez qu'il y a plein de causes qui font que vous atterrissez ici. Bon. Et nous atterrissons chacun quelque part, etc. Alors lui, cet intellectuel-là, il a démontré que la liberté du vouloir n'existe pas. À l'intérieur de cela, c'est-à-dire, moi j'attache la plus grande importance à la procédure démonstrative, c'est-à-dire le fait que c'est selon l'ordre de géométrie. Pour moi, je l'ai dit mille fois, ça n'est pas un vêtement folklorique, si vous voulez, on va faire comme si c'était des maths. Non, pour lui, c'est vraiment démontré.
Oui, l'éthique, il faut préciser aux auditeurs, est écrit comme un traité mathématique.
Voilà, c'est exactement comme Euclide, c'est ça, c'est son modèle. Les éléments d'Euclide qui font de la géométrie dite euclidienne. Bien. Donc, il faut distinguer ensuite deux choses, c'est très important. Bien sûr, il y a des désirs qui sont nos nécessités à nous. Moi, je suis une chose qui entend persévérer dans son être, et pour persévérer dans mon être, j'ai besoin de manger, par exemple, j'ai besoin de me nourrir, et j'ai besoin de boire aussi. Bien. Le tout, donc, ensuite, c'est de penser ce que c'est que vivre sous la conduite de la raison. Ça, c'est le premier stade. Et ce stade, il est assuré par la réflexion, effectivement, et ça consiste à comprendre ce que je dois faire en ce qui concerne le boire et le manger, par exemple. Manger juste de quoi persévérer dans mon être, manger modérément, donc boire modérément, si possible du bon, il n'y a aucune raison, puisqu'il s'agit de vivre et de vivre bien. Donc ça, l'homme qui vit sous la conduite de la raison, il va se trouver déterminé, lui, par la lecture de l'éthique. C'est-à-dire, le salut, il est au bout de la lecture de l'éthique. Et c'est pour ça que Spinoza sait très bien que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il le dit. C'est-à-dire, vivre sous la conduite de la raison doit être le produit d'une détermination par la vérité. C'est tout simple. Et en ce qui concerne la béatitude, c'est encore autre chose. Dans le texte qui vient d'être lu, il était question, en effet, de la science intuitive. Alors là, c'est autre chose. Et ça, c'est encore plus happy few, si j'ose dire. Mais vraiment happy, happy, mais few, few aussi. Parce que, bien sûr, il faut traverser une épreuve terrible qui consiste à comprendre la démonstration d'une chose paradoxale qui est que, contrairement à ce qu'on croit avoir été déterminé, donc démontré dans tout ce qui précède, quand je meurs, ce n'est pas tout mon esprit qui meurt. Une partie de mon esprit est éternelle. Et ça, c'est un coup de théâtre, si vous voulez. Et c'est seulement une fois que j'ai compris ça que je peux accéder au troisième genre de connaissance et qui est le seul qui puisse assurer le salut, c'est-à-dire l'accès à cette fameuse suprême joie pour l'éternité. Bon, Ça, c'est donc réservé en effet à un petit nombre. Et Spinoza le sait tellement bien que l'avant-dernière proposition de l'éthique consiste, je traduis, je résume, mais c'est ça, à dire c'est pas parce que vous n'avez pas compris ce qui suit la proposition, disons, 5, 21, 22, etc., que vous êtes dispensé de ce qui précède. C'est-à-dire, il n'empêche que tout ce qui précède est vrai. Et tout ce qui précède, c'est la conduite de la vie. Oui. C'est la droite manière de vivre qui a été démontrée. Et donc, ce qu'attend Spinoza, c'est que on lise son éthique et qu'on s'en trouve transformé par la détermination. C'est-à-dire, nous sommes totalement déterminés par Euclide. Ou par la mathématique. Nous savons très bien que 2 et 2 font 4. Il a fallu l'apprendre. Et ensuite, on n'a aucun problème à aller chez le boulanger acheter la baguette, si vous voulez. Donc, on s'y retrouve dans le calcul. Hein, mais il a fallu l'apprendre aussi. Il a fallu l'apprendre. Eh bien, il faut apprendre la droite manière de vivre. Voilà. Et on l'apprend parce qu'on vous le... Je rappelle aussi, ça, à mes yeux, c'est super important, que aussi longtemps qu'on n'a pas compris la démonstration de la somme des trois angles d'un triangle est égale à deux droits, aussi longtemps qu'on n'a pas lu la démonstration et compris la démonstration, on ne sait pas, la phrase que je viens de dire, on ne sait pas. La mémoire l'a emmagasinée, mais c'est pas savoir, ça. C'est savoir par oui dire. Donc, on ne peut pas savoir par oui dire le contenu de l'éthique. Ça ne veut rien dire. Donc, pour savoir, il faut avoir tout lu, et avoir lu les démonstrations, et avoir compris. Et alors, à ce moment-là, effectivement, on sait, et on est changé.
C'est on toujours pour répondre. Mais oui, vous avez extrêmement précisément répondu à ce problème. Je vous propose de laisser un peu de côté le problème de l'enjeu de notre éternité. Happy few, avez-vous dit, c'est très difficile à comprendre. Je vous propose de le laisser légèrement de côté, pour ne parler que de la profondeur de la joie, de sa vérité que nous ressentons, dit Spinoza, lorsque nous nous sommes élevés à une connaissance rationnelle et même troisième genre de connaissance, une connaissance intuitive supérieure des choses. Nous avons une manière de vivre, avez-vous dit, Bernard Potrac, qui nous rend bien plus heureux que quand nous étions ballottés de désir aveugle en désir aveugle. Alors maintenant, j'ai cette question à vous poser à tous les deux. Et si la bonne manière de vivre, c'est-à-dire satisfaction modérée des désirs corporels, modération, avez-vous dit, hein, on satisfait, mais on n'en fait pas trop, on pas d'ivresse, pas d'infinité. Est-ce qu'on est sûr que ça rend heureux? Je comprends bien que ça mette en bonne santé et qu'on soit satisfait de vivre rationnellement, mais est-ce que ça rend heureux? Est-ce que la raison rend heureux? Ne rend-elle pas par ailleurs inquiet? Et inversement, n'est-on pas plus heureux parfois en ne sachant pas trop?
Alors, je pense qu'il faut repartir de l'état dans lequel nous mettent ces manières de désirer des biens périssables, illusoires, qui nous trompent, qui nous déçoivent. C'est un état d'agitation permanent, de présent perpétuel, là... Pardon, mais je reviens à la question de l'éternité, parce qu'au fond, c'est tout un rapport au temps qu'on entend aussi modifier à travers cette recherche d'un vrai bien qui produirait une joie continuelle, une béatitude. Donc peut-être se remettre dans cet état-là de ballottement, d'inquiétude, mais au sens vraiment fort du terme, hein, c'est-à-dire d'instabilité, de déséquilibre permanent, pour mesurer peut-être l'avantage qu'aurait cette stabilité, cet équilibre, peut-être le mot équilibre hein, qu'on a beaucoup utilisé pour définir le spinozisme, hein, philosophie de l'équilibre. L'équilibre, c'est toujours un mouvement en fait, hein, c'est toujours un mouvement de recherche de stabilité. Donc au fond, c'est peut-être cela qui est le plus désirable dans ce type de bien à rechercher, dans l'état de béatitude, qui n'est pas la béatitude au sens peut-être religieux, d'une contemplation mystique, qui viendrait aussi peut-être d'un renoncement à la chair. Spinoza n'est pas puritain, entre guillemets. Hein,
mais il est modéré.
Alors modéré, moi je dirais, j'irais pas vers cette idée de modération, je dirais plutôt de diversification des sources de plaisir.
Entendu.
Il y a un très beau scoli dans l'éthique 4, hein, c'est le scoli qui suit des corollaires de l'éthique 4.45, qui explique ce que serait cette règle de vie, qui est d'abord un usage des plaisirs, extrêmement fin, extrêmement diversifié, qui intègre aussi la variation et la démultiplication des sources de plaisir. Alors donc peut-être une modération, mais qui ne va pas sans une diversification des sources de plaisir et donc des biens à désirer. Je ne crois pas que cet usage de la vie, cet usage des plaisirs que recommande Spinoza soit si déconnecté de cette idée de béatitude, en fait.
Mais il y a de la maîtrise rationnelle. Peut-être ce terme vous conviendra-t-il mieux que modération.
Oui.
Il y a une certaine maîtrise rationnelle de sa conduite de vie. Est-ce que le bonheur est, si j'ose dire, dans la maîtrise? Est-ce que le bonheur est dans cette maîtrise?
Alors, si on entend par maîtrise une forme de contrainte qui viendrait nous forcer à les restreindre, à les discipliner, non, parce que véritablement nous sommes pas les maîtres finalement. Nous sommes jamais les maîtres. Hein. Bernard Potrat l'a dit. Il y a pas de libre arbitre. Nous ne nous déterminons pas nous-mêmes. Mm-hmm. Donc il y a pas moyen de commander à ses désirs comme on dresserait un animal, etc. Ça c'est exclu pour Spinoza. Tenter cette déprise du désir à l'égard de biens qui l'aliènent, qui le déforment, qui le détournent, qui au fond nous exposent aussi à ces états mortifères de maladie. Avec l'extrait que vous avez passé de l'ennui de Cédric Kahn, on était là-dedans, dans l'ordre de la toxicité aussi de certains désirs, de leur caractère addictif. Mais là encore, il ne s'agit pas de renoncer au désir, mais de précisément le répartir, le faire circuler autrement, au fond.
Bernard Potrat, sur ce problème de la maîtrise rationnelle, dont j'ai demandé si on était sûr qu'elle rendait heureux.
Il y a des individus qui sont déterminés à considérer la vie avec un adage. C'est souvent des personnages turbulents qui veulent la vie plutôt courte mais bonne, c'est-à-dire satisfaction des désirs à outrance, si vous voulez, ils sont déterminés à ça. Ils sont déterminés à ça. Que voulez-vous que je vous dise ?
Ils ne sont pas dans la béatitude, il en est certain.
Ah bon, c'est pas leur problème.
Spinoza.
Non, c'est pas leur problème. Ils veulent jouir. Si je peux avoir du pognon, j'aurai du pognon. Si je peux séduire toutes les filles, j'aurai toutes les filles. Je m'en fous. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Ouais, je vais crever. Et alors, voilà. Quant à la maîtrise, je pense que la seule maîtrise importante, c'est la maîtrise de soi. À ce moment-là, ça a un sens. C'est-à-dire, mais c'est parce qu'on a été déterminé à fabriquer en soi-même les outils de la maîtrise de soi. C'est-à-dire, on n'est pas, c'est pas le, je décide pas de l'acquérir comme ça. Je sais qu'il faut des moyens. Et si j'ai ce désir-là, alors de jouir de la vie d'une certaine manière, ce qu'a dit Céline est très vrai, très important. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut, c'est pas un ascétisme, le spinozisme, du tout, il faut jouir du monde.
Oui.
De toutes les choses, il faut être curieux, faut pas se priver d'un certain nombre de choses, les plantes vertes, le théâtre et tout ça, c'est tout ce qui fait du bien. Mais la seule chose que j'ai observée, puisqu'on a parlé quand même de cet aspect-là, c'est que sur la question de la libido, donc, et des libidines, alors là, il est quand même, si je peux me permettre, particulièrement coincé. C'est-à-dire que ça, au fond, il le raye vraiment. Et comme il sait qu'il le raye et que c'est pas bien de le rayer purement et simplement, il ajoute tout d'un coup, alors qu'il prétend résumer ce qui précède, des deux petits chapitres, on va pas dire la quatrième partie, sur le mariage, et on s'aperçoit que c'est pas gay-gay, hein, ça ressemble au fond à la doctrine du Vatican, hein, c'est à peu près. Oui, il faut pas que l'amour d'une personne, n'est-ce pas, soit déterminé par la forme, c'est-à-dire par la beauté, donc ça, on raye déjà. C'est simplement la liberté de l'esprit de personnes qui ont compris, justement, qui vivent rationnellement, sont attirées l'une par l'autre. Alors, elles se marient dans le but de faire des enfants qui seront eux-mêmes des petits sages, voyez-vous. Bon,
c'est je vois, enfin, j'essaye de voir.
De ce point de vue-là, c'est pas sexy, si je peux me permettre. Donc,
ça lui convient à lui, me dirait-vous.
Mais donc, il sait encore tellement bien qu'il y a un problème, qu'à la toute fin de l'éthique, il explique que c'est pas parce qu'on réprime ça qu'on va jouir de la béatitude, c'est parce qu'on jouit de la béatitude que ça se trouve réprimé ipso facto, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est rien à côté du plaisir qu'on prend par le troisième genre de connaissances, dont je résumerai parce que l'heure passe, tout simplement que ça consiste, pour lui, c'est une science intuitive qui consiste à vous voir, vous, à la voir, elle, Céline, à voir les murs, etc., en Dieu. C'est ça, voir ça en Dieu, dans une certaine dimension d'éternité. Alors ça, c'est une gymnastique particulière à laquelle un certain nombre de commentateurs ne croient pas du tout. C'est-à-dire, bon, on s'en fout, si vous voulez. Et je pense que Spinoza a expérimenté ça, sinon il n'aurait pas pris la peine de faire toute cette fin de l'éthique.
Donc la béatitude, hélas en un mot, parce qu'on arrive au bout, c'est énervé, c'est peut-être pas pour tout le monde.
Non,
au sens de Spinoza, je veux dire.
En tout cas, c'est un chemin escarpé auquel tout le monde ne parvient pas au bout. Donc, voilà. En effet, il y a quelque chose de l'ordre d'un chemin escarpé.
Il faut
escarpé.
Pas entendre l'universel, là. Il faut entendre aussi la singularité de ceux à qui cela convient, dans ce qu'écrit Spinoza.
Je ne suis pas pour une lecture, disons, un peu aristocratique de cette idée de béatitude qui serait accessible à quelques-uns. Je pense qu'il y a... Cette dimension de l'effort, elle est universellement partagée. Et là, on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que l'éthique, elle se poursuit nécessairement dans une politique.
Hein. Oui.
Voilà, donc on peut pas être... En effet, si c'est sur soi seul que repose l'accès à la béatitude, ça c'est totalement impossible, en tout cas pour tout le monde. Néanmoins, on peut limiter les circonstances qui nous en éloignent encore plus. Et ce, par, en effet, un agencement des constitutions qui nous soustrait à l'emprise des désirs des autres en particulier.
I'm married to an angel whose love is warm and true. Still on doing these crazy things I do. I slip around with others while my conscience burns like fire. How can I stop this crazy wild desire? I know that she knows what hurts me most of all, to think that she still loves this fool who's let his morals fall. Lord, give me strength before her patience tires. Please help me stop this crazy wild desire. I know that she knows that's what hurts me most of all, to think that she still loves this fool who's let his morals fall. Lord, give me strength before her patience tires.
Un peu de musique country pour finir cette émission sur Spinoza, c'est peut-être surprenant. C'est Webb Pierce en 1962, Crazy Wild Desire. Il se demande comment il peut stopper, how can I stop ce désir sauvage et fou. C'est un des enjeux que nous avons évoqués aujourd'hui. Merci beaucoup Bernard Potra et Céline Hervé pour vos analyses sur Spinoza. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse aux disciplines. Voici le pourquoi du comment.
Comment aller au-delà d'une discipline. Dans l'expérience, non seulement sociale à un instant donné, mais peut-être générale de l'apprentissage du savoir par un être humain, dans cette expérience, il y a le problème du découpage des savoirs, de sa vertu, de sa profondeur, mais aussi de sa limite et de la nécessité de la dépasser. Par exemple, dans nos sociétés, le savoir est découpé en disciplines qui marquent l'état des lieux, finalement, de savoirs spécialisés et aussi de noyaux que l'on doit enseigner à tout un chacun pour maîtriser le monde et maîtriser sa vie. Ce découpage n'a rien de fondé dans la nature absolue des choses. Il n'est pas non plus totalement arbitraire. Si l'on dit par exemple qu'il faut apprendre à lire, écrire, à compter à l'école primaire, c'est parce qu'il s'agit de techniques et d'embryons de disciplines minimales sur lesquelles vont se fonder des disciplines plus approfondies, les mathématiques, la littérature par exemple, ou l'histoire. Et d'une certaine façon, il y a donc dans cet approfondissement disciplinaire de techniques minimales, une richesse en quelque sorte infinie. Un étudiant va découvrir sa discipline de prédilection. Ce ne sont pas seulement des normes sociales qui vont faire qu'un tel est jugé bon ou mauvais en mathématiques, mais il va y avoir une passion disciplinaire en quelque sorte, un infini qui s'ouvre dans le détail de la mathématique ou de la littérature par exemple. Et de ce point de vue, aller au-delà d'une discipline, puisqu'il y a aussi une limite, puisqu'il y a cette injonction subjective et pas seulement institutionnelle, à aller au-delà des disciplines, cela peut être aussi par creusement de l'intérieur. Celui qui se passionne pour sa discipline va entrer en elle de telle sorte à inventer des sous-disciplines et peut-être vont-elles s'autonomiser à leur tour comme discipline. Dans les mathématiques, l'algèbre et la géométrie, par exemple, qui vont se séparer et en même temps rester en contact, et on l'espère aussi, avec le reste du monde. Il y a pourtant une autre limite que ressent chacun et chacune. Et pas seulement dans une injonction, encore une fois, institutionnelle, dans les politiques de l'enseignement ou de la recherche, qui est d'aller au-delà de sa discipline. Ce découpage peut en effet devenir figé, sclérosé, mutilant, et nous faire manquer la diversité du monde. Mais c'est toujours à ce moment-là par une de l'intérieur, en quelque sorte, du savoir, et non pas de l'extérieur, que le fait d'aller au-delà des limites d'une discipline sera jugé légitime. Cela va s'imposer de l'intérieur. Aujourd'hui, nous assistons à une révolution interdisciplinaire qui fait que les mathématiciens doivent se faire linguistes au cœur même de l'intelligence artificielle et des productions de nouveaux modèles. Mais toute époque invente une nouvelle obligation d'interdisciplinarité. Dans les années 60, la linguistique a irrigué la psychanalyse ou l'anthropologie, ce n'était pas par une abstraction de structuraliste totalitaire, mais bien plutôt par une richesse mutuelle dans des savoirs très précis démontrés qui faisaient que l'interdisciplinarité n'était pas un programme, mais un choix et une avancée collective et critique avec des avancées aussi et des inventions individuelles. Le partage des disciplines, l'invention de singularités disciplinaires ou de grandes communautés interdisciplinaires est donc un double horizon du savoir qu'il ne faut jamais oublier car il suscite aussi le désir.
Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France notamment et sur le site franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Armance Bourquin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Anna Feulpin, Chaï Magiboire et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.